Bonjour à tous et bienvenue. Vous écoutez Blooming You, le podcast qui vous propose toutes les connaissances utiles à une vie bonne et heureuse. Nous avons une ambition, celle de vous inspirer, de vous aider à mieux vous connaître et surtout de vous faire du bien. Notre parti pris est de partager avec vous des savoirs ayant un impact positif sur l'homme et le vivant. Je suis Amal Dadol, votre hôte, et j'espère que ce contenu fera sens pour vous. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'Anne Cazobon, l'autrice du livre « Merci à un inconnu » chez Vibert Éditions. À rebours des chaînes d'information en continu qui nous livrent quotidiennement une actualité terne et morose, Anne Cazobon, elle, s'est intéressée aux liens qui nous font vivre, aux gestes gratuits et désintéressés de personnes qui illuminent et changent la vie des autres sans vraiment le savoir. Dans ce podcast, Anne Cazobon nous raconte ce qui l'a amenée à recueillir et à partager des milliers de petits témoignages de gratitude d'inconnus envers d'autres inconnus. Anne Cazobon, bonjour.
Bonjour Amal.
Alors Anne, vous êtes auteure, artiste et conférencière et la créatrice du compte Instagram « Merci à un inconnu » que vous avez créé à l'occasion des premiers jours du confinement. Vous êtes aussi l'autrice du livre « Merci à un inconnu, soyons tous des héros du quotidien » paru récemment chez Vibert Édition. Alors Anne, quel événement a initié l'écriture de ce livre? Alors moi je le connais puisque effectivement il est clairement indiqué dans le livre, mais est-ce que vous pourriez nous le raconter pour les auditeurs, pour ceux qui nous écoutent?
Oui, les inconnus m'ont toujours fascinée. J'ai moi-même rencontré un inconnu il y a une vingtaine d'années sur un quai de métro où j'étais mal en point. Je dirais que j'ai eu un début de vie d'adulte un peu difficile, où je me trouvais dans une impasse et je ne trouvais pas d'espace de libération émotionnelle, d'espace d'accompagnement à ce moment-là. Et voilà, cet état m'a mené à venir échouer de tout mon être sur un quai de métro à 23 ans. À tel point que à ce moment-là, j'avais presque envie d'en finir, en fait. Et il y a un homme, une espèce d'homme d'une cinquantaine d'années, peut-être avec un pardessus, qui est venu se poster juste à côté de moi. La jeune femme que j'étais, 23 ans, était complètement avachie sur ce fauteuil en plastique sur ce quai de métro. Et cet homme est resté là pendant de longues minutes, près d'une demi-heure, en restant silencieux, debout à côté de moi, comme un veilleur, comme une forme de sentinelle, de garde-fou. Parce qu'en fait, à ce moment-là, moi, je me disais, allez, quelques petits pas et puis s'en va. Et je regardais, je mesurais vraiment les mètres qui me séparaient du quai et des rails, en fait. Et les rames de métro se succédaient. Et moi, avachie, courbée, courbant l'échine vraiment et recroquevillée sur mon chagrin, mon nombril, mes sanglots, mes problèmes, je dirais. Voilà, laissant passer ce flot d'usagers qui rentraient de leur boulot, de l'école. Et cet homme-là est resté là, sans un mot. Je pourrais dessiner ses chaussures par cœur parce que j'ai une photographie mentale de ses souliers, des beaux souliers d'homme qui prend soin de lui, je dirais, en cuir là, qui était juste à côté de moi. Et nos regards se sont croisés extrêmement furtivement quelques secondes au moment où j'ai réussi à reprendre un peu mes esprits et à me dire « non mais c'est pas possible, ce type-là est depuis vraiment trop longtemps à côté de moi, qu'est-ce qu'il fait là, qu'est-ce qu'il me veut ?» Et en fait, le fait qu'il soit là, qu'il reste là, m'a sorti de ma torpeur, m'a sorti de ma transe dans laquelle je restais et je tournais en rond. On s'est vu une fraction de seconde, comme une forme d'électrochoc intérieur, pour lui comme pour moi, je crois, qui vraiment, en fait, je venais comprendre dans son regard qu'il avait vu ce que j'allais faire. Et le simple fait de voir dans son regard, ça me touche encore de le dire, de voir dans son regard qu'il avait pu voir ça en moi et donc, il me tendait ce miroir de ce que j'allais faire, de ce que j'avais prévu de faire, m'a regonflé l'envie de vivre et regonflé l'appel d'air, je dirais. Et donc, je me suis mise à courir sur le quai de métro. J'ai gravi 4 à 4 les escaliers. J'ai couru pendant une heure dans Paris. Je suis montée mes 6 étages vraiment comme une fusée. J'ai retrouvé le numéro d'une thérapeute qu'on m'avait donné 3 ans auparavant en retournant tout mon appartement. J'ai envoyé un SMS et le lendemain, à 9h, j'étais dans le bureau de cette thérapeute. Et pour vraiment entamer un long chemin de thérapie, de résilience et de travail de libération émotionnelle et d'allègement de ce qui encombrait visiblement la voie de l'être à cet endroit-là.
C'était il y a combien de temps?
Donc ça, c'était il y a une vingtaine, il y a 20 ans presque. D'accord. Il y a 20 ans.
Et qu'est-ce qui vous a amené 20 ans après et à produire cet ouvrage, à l'imaginer, à le penser, même ce compte Instagram, parce que c'est la genèse même de... Enfin, c'est la genèse, c'est l'origine, ou c'est le début de ce livre,
oui, l'histoire de ce livre. C'est presque comme la grosse pelote, je dirais. C'est le début de la pelote et que j'ai tiré, bien sûr, avec plusieurs ficelles depuis une vingtaine d'années. Alors, pas de cette manière-là, mais où j'ai eu tout un chemin artistique un peu qui s'est, je dirais, comme si j'avais remonté depuis ce quai de métro jusqu'à l'air libre. Évidemment, donc, au début de cette thérapie, au début vingtaine, je me requinque un peu en tentant de me reconnecter au monde et à mes semblables, et je me mets à donner des petits mots dans le métro. J'essaye de re-rentrer en lien, de faire société, d'arrêter d'être complètement accaparée par des chagrins qui sont les miens ou pas, d'ailleurs, peu importe, mais en tout cas qui m'encombraient, qui me gênaient profondément dans ma vie. Et donc, je transforme au fur et à mesure des séances de thérapie, au fur et à mesure des stages, au fur et à mesure de tous ces espaces que je trouve de libération pour moi, d'allègement. Vraiment, j'ai l'impression d'écoper quelque chose comme le bateau qui coulait et de transformer ça. J'ai vraiment quelque chose du phénomène de transmutation qui en permanence est là, de transformer cet état-là en art pour le monde, en poésie urbaine. Je trouve... extrêmement impudique le fait de déballer, de torpiller son mal-être ou la raison du pourquoi du comment. Ça ne m'intéresse pas, en fait, ni chez les autres, ni chez moi. En revanche, ce que je trouve vraiment fascinant et passionnant, c'est l'intelligence des situations. Et donc, c'est comment je peux transmuter ça pour ensuite, évidemment, offrir au monde ma meilleure contribution. Et donc, c'est cet endroit-là où je trouvais intéressant d'être chez la thérapeute, chez peu importe, auprès des personnes qui m'accompagnaient à ce moment-là, de dénouer la pelote et de tirer le plus beau fil d'or pour ensuite en faire quelque chose que je pouvais offrir au monde. Et donc, au fur et à mesure, pendant une vingtaine d'années, et encore aujourd'hui, l'idée, ça a été de monter ces marches qui me faisaient vraiment remonter de ce 6 pieds sous terre, entre guillemets, parce que le quai de métro, c'est quand même ce monde d'en bas, hein, ce monde du bas astral aussi, un peu, où on croise plein d'énergie à un endroit et où ça nous appelle à venir entrer en résonance avec plein d'états d'être. Et donc, l'idée, c'était vraiment de transformer cet état-là. Donc, je me suis mise à donner des petits mots dans le métro, des petits mots qui sont devenus des carnets que j'ai appelés les textopolitains, qui ont été publiés en 2011 chez un éditeur. Puis, je me suis mise j'adore le rouge à lèvres parce que j'ai vraiment tout un chemin autour de l'expression. C'est très important. J'ai l'impression, c'est comme le schtroumpf, il y a un épisode des schtroumpfs comme ça où c'est le schtroumpf marathonien. Et il se dit, oh, j'y arriverai jamais. Le grand schtroumpf lui donne de la confiture de salse pareille pour se mettre sur le bout du nez en lui disant, si tu as de la confiture, tu arriveras au bout de tes 42 km. Et moi, le rouge à lèvres, c'est un peu ça. Je mets du rouge à lèvres parce que quand j'ai du rouge à lèvres, je suis Beyoncé. Rien de grave peut m'arriver. Je sais que l'expression sera telle qu'elle est. Et donc, il y a vraiment cette idée d'écrire avec une espèce de feutre en forme de rouge à lèvres sur tous les miroirs de Paris. Donc, j'ai torpillé tous les miroirs de café, brasserie, restaurant, de phrases pour que les femmes qui se regardaient dans ces miroirs, dans les toilettes, reprennent confiance en elles. Donc j'écrivais « Je suis un trésor, ça n'est pas parce qu'elle est belle que je ne le suis pas ». Donc des phrases vraiment comme des mantras sur ces miroirs-là. Alors ça s'effaçait très facilement, l'idée c'est vraiment justement de ne pas abîmer, mais juste de venir semer ça de cette manière-là. Et donc je me réparais comme ça, et ça permettait aussi de semer ça chez peut-être d'autres qui pouvaient y trouver leur compte. Et puis, toujours dans cette remontée un peu ascensionnelle, je suis arrivée au niveau du bitume, au niveau de la rue, et je me suis intéressée aux bouches d'aération du métro, que sont ces bouches, ces grilles qui soulèvent les jupes des filles et qui réchauffent les hommes et femmes sans domicile fixe. Et ça m'a toujours très intéressée, ces grilles-là. Je trouvais que c'était un poumon dans la ville qui respirait, que ça générait aucune énergie, en fait. Par rapport à je trouvais qu'il y avait plein de festivals artistiques dans Paris où il y avait toujours des gros générateurs, où vraiment ça polluait à fond, mais bon, sous couvert de faire une œuvre artistique, il y avait des groupes électrogènes de partout. Alors que là, en fait, on a une souffleuse qui souffle tout le temps et il y a moyen de faire quelque chose. Et j'avais été à une pièce de théâtre où il y avait, ça parlait de l'éternel retour de guerre impossible, et ça me parlait bien parce qu'il y avait une forme de guerre à l'intérieur. Et à la fin de la scène, sur une explosion sanguine, plutôt que justement de faire des effluves de sang, le metteur en scène avait choisi de mettre des confettis pailletés et avait mais torpillé tout le théâtre comme ça avec des souffleuses. Et je m'étais dit, non, c'est ça. Il faut transformer le sang en quelque chose de vraiment magnifique. Voilà, transformer mais vraiment l'apocalyptique, le catastrophique, bien sûr, qu'on vient d'histoire familiale, d'histoire de lignée, d'histoire de France, enfin peu importe d'où on vient, on revient de loin. Et donc l'idée, c'était vraiment d'amener et de transformer ça en beau. Et donc, quelques mois avant les attentats, j'ai commencé à vraiment jouer avec ces bouches d'aération, donc à trouver des confettis entièrement inifugés de cette même manière-là pour être totalement irréprochable sur du développement durable, bien sûr. Et donc, l'idée, c'était vraiment de distiller ces confettis pour faire comme une espèce de champignon atomique artistique et de jouer à ça. Et donc, comme chaque œuvre artistique, c'est une impulse de l'artiste qui vient, qui transforme quelque chose. Ensuite, il y a l'œuvre qui est cette espèce d'énorme explosion de confettis dans le ciel, qui donc là appartient à tout le monde. Et ensuite, les confettis retombent. Et ensuite, de laisser les gens rejouer avec, les enfants et le public s'approprier l'œuvre. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec Merci un inconnu. De la même manière, j'avais donc cette idée de ce hashtag Merci un inconnu que j'avais commencé quand j'étais journaliste radio il y a quelques années un peu à travailler toujours sur ce fil de l'inconnu. Et vraiment au moment de... C'était resté assez confidentiel. Et vraiment au moment du début du confinement, quand les rideaux de fer se sont baissés et cette espèce de chape de plomb, je me suis dit, mais je n'ai pas pu faire autre chose. J'ai entendu une voix à l'intérieur, très forte, une intuition de « maintenant, c'est un compte Instagram ». Et j'ai lâché tout ce que je faisais. Moi, j'avais vaguement un compte Instagram perso, mais voilà, qui est un peu anodin, on s'en fiche. Et je me suis mis une soirée en me disant « ok, ça va être ces couleurs-là, ce template-là. La première histoire, c'est la mienne, c'est pour ça que ça s'appelait « Merci un inconnu ». Je vais mettre deux, trois autres histoires en mettant mes deuxième et troisième prénoms, parce que donc, c'est toujours un peu moi, donc j'ai glissé quelques histoires perso. » J'avais demandé un peu des histoires à des amis, voilà, et j'ai commencé à lancer ça. Et d'un coup, en fait, la sauce a pris et l'effet boule de neige a œuvré.
Et maintenant, aujourd'hui, vous avez plus de 200 000 abonnés.
Ouais, on est même à 224 000. Ouais. En une année, 224 000. Donc en fait, ce qui est magnifique, c'est que les gens, très vite, très très vite, les gens ont partagé. Et puis se sont mis à envoyer leurs histoires, puisque l'idée c'était ça, c'était d'alimenter en fait le compte. Moi j'ai reçu plusieurs milliers d'histoires aujourd'hui, que je trie bien sûr, puisque l'idée c'est vraiment de ce que j'aime beaucoup la phrase de Tom Hanks dans Forrest Gump qui dit « La vie c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber ». Et j'aime beaucoup l'idée d'alterner, de montrer en fait tout le champ de la gratitude. Tout le champ de la sollicitude, c'est-à-dire que ça peut être vraiment juste un compliment, juste le « je te tiens la porte et je vous aide à pousser porter la poussette, le bagage ou quoi au caisse », et ça peut être le massage cardiaque, il y a des histoires vraiment héroïques hein, de petites filles sauver la noyade, d'un camping, d'accidents domestiques, donc de montrer vraiment l'étendue de qu'est-ce que je peux faire pour l'autre quand je lève la tête de mon smartphone et quand vraiment je regarde mes semblables avec mes deux yeux, les deux yeux qu'il me reste.
Alors, votre livre est hyper émouvant parce que, bon, moi, je le lis, il est sur ma table de chevet, je le prends avant de m'endormir pour communier avec cette gratitude, avec cette humanité, parce que votre livre est profondément, on est dans l'humanité, profondément humaniste. Je vais donner un exemple d'une histoire, moi, qui m'a profondément touchée, qui est signée de Christelle. À vous, l'inconnu croisé dans les allées d'un supermarché, à vous qui avez vu le turban de ma mère glisser, laissant entrevoir son crâne lisse de femme souffrant d'un cancer, à vous qui l'avez regardé avec tendresse en lui disant d'un sourire « Vous êtes si belle, vous n'avez pas besoin de ce morceau de tissu », jamais je n'oublierai combien ma maman fut touchée par ces mots. Merci madame. J'ai trouvé ça magnifique. Il y a plein d'histoires comme ça, effectivement, venant de gens qu'on ne connaît pas, enfin d'inconnus, puisqu'en fait c'est merci à un inconnu, mais venant aussi d'inconnus. Il y a celle de Marie aussi. À vous les ouvriers slaves qui m'avez réveillé un matin dans le train pour me prévenir que j'arriverais à mon arrêt. Vous l'aviez repéré au fil des jours et vous m'avez évité de finir au terminus ou dépouillé de mes affaires. Merci d'avoir veillé sur moi pendant ce trajet ainsi que tous les suivants. En sortant de mes gardes de nuit, je me suis toujours sentie rassurée par votre présence.
Mais c'est ça, en fait, il y a ce souci de l'autre, cette attention à l'autre. Ces ouvriers esclaves, ils voient cette femme-là, ils la repèrent, elle commence à faire partie de leur quotidien. Et puis la première histoire que vous avez lue, elle parle des mots aussi, de la puissance, du pouvoir des mots, de l'impact des mots. Ça parle vraiment du verbe créateur aussi, et que combien je peux acter dans le monde, impacter le monde avec une phrase, juste ce que je viens dire, sans attendre rien en retour, mais juste vraiment venir dire, je t'ai vu, je vous ai vu, je vois ce que vous traversez, je remarque ça, je reconnais ça. Et si je crois qu'une des plus grandes blessures de l'humanité avec un grand H, c'est le besoin de reconnaissance,
Bien
c'est
sûr.
l'envie d'être reconnue dans ce que je traverse, dans l'épreuve qu'est ma vie à cet endroit-là. Et donc juste de venir dire, je te vois à ton endroit, je te vois dans ton fauteuil roulant, je te vois dans ta peine de cœur, je te vois à pas pouvoir boucler ta fin de mois, et c'est pour ça que je te donne 15 centimes d'euros à la caisse parce que je te vois compter tes pièces jaunes parce que tu n'y arrives pas. Je t'ai vu. De la même manière que je peux venir faire un compliment dans ce bus-là de waouh, magnifique robe, qu'est-ce que vous êtes élégante, ou oh là là, c'est beau, un couple aussi amoureux, merci pour l'inspiration, merci de me montrer que c'est possible. Donc c'est aussi dans cet état aussi où tout le monde est un peu habillé pareil, où c'est difficile de sortir du lot, chacun rêve un peu de sortir du lot, d'être remarqué, d'être reconnu, d'être, je sais pas quoi, à la télé-réalité, dans les radios-crochets ou quoi qu'est-ce. Et en même temps, si je suis remarquée, je peux éventuellement être harcelée. On le voit bien dans les collèges, les lycées. Ceux qui sont harcelés, c'est ceux qui sont pas tout à fait dans les clous, pas tout à fait sur l'autoroute de faut rester à peu près. Et donc, il y a cette ambivalence-là du j'aimerais être reconnue et en même temps, oula, pas trop. Et donc, j'aime cette idée d'aller voir l'autre et de lui dire, mais j'adore. D'avoir le nombre de femmes et d'hommes qui racontent oh, je sortais de mon immeuble comme ça et j'étais vraiment dans un moment de grande déprime et il y a quelqu'un qui est passé en disant oh, qu'est-ce que vous sentez bon? Ou juste waouh, vos cheveux sont magnifiques, ou vraiment ce genre de choses-là, en fait. C'est juste une phrase, mais mon Dieu, ça peut faire tellement, tellement.
Oui, vous prenez une citation qui est superbe et qui exprime très bien ce que vous dites là aujourd'hui, qui est une citation de Suzy Murray. Il y a des paroles qui portent plus loin que le vent.
Moi, je me souviens, il y a des années, j'étais journaliste et je dessinais les gens dans le métro. Alors maintenant, ce serait encore plus difficile de les dessiner parce que c'est que des demi-visages avec le masque. Mais j'aimais bien ça parce que je trouvais que j'avais 5-6 stations et je pouvais dessiner la personne et je la captais. Et j'avais pris un RER dans une zone un peu craignos, j'avais du matériel de radio sur moi, donc je ne faisais pas la maline. Et en même temps, donc j'étais un peu tout seul dans cette rame de RER, bon, un peu en train de me dire quand est-ce que j'arrive. Et il y avait un type, mais magnifique, mais un peu bad boy, mais magnifique. Et il était un peu loin, je n'avais pas osé me rapprocher. Et je l'avais dessiné de loin, et avec mes yeux un peu de dessinatrice, je pense que j'étais un peu avec un regard un peu inquisiteur comme ça. Et il s'est élevé, il m'avait vu, il s'était levé, il s'était approché en me disant, c'est quoi, il y a un problème? Parce que, donc il avait mal pris ce regard-là. Et je lui avais dit, en fait, je vous trouve magnifique et je suis en train de vous dessiner. Et le type s'était liquéfié, était descendu en me disant, ah bon, mais montrez-moi, ah, vous pourrez me donner, attendez, ben, je vais rester, je pose, vous pourrez m'offrir le dessin après. Et c'était vraiment mais l'ours d'un coup qui était devenu agneau, tout petit. Et évidemment que je lui disais, mais je te vois, je t'ai vu, j'ai vu ta beauté, j'ai vu ta grandeur d'âme. Et on a passé mais une demi-heure à discuter, c'était magnifique Oui, de compréhension de l'autre, c'est moi, en fait.
Alors, comment vous expliquez cette défiance, effectivement, qu'il a eue envers vous avant que vous lui disiez mais non, mais tu es très beau, tu es magnifique.
C'est cette ambivalence-là, du j'aimerais tellement être reconnue, et oh là là, quand on me voit, qu'est-ce qui se passe? Et c'est cette ambivalence exactement sur le conte. Le conte, un jour, je pense que j'écrirai un bouquin sociologique sur Merci un inconnu. Ce qui est très intéressant, c'est de regarder les commentaires. Quand je poste une histoire sur quelqu'un qui a vraiment filé un grand coup de main ou tiré une épingle du pied à quelqu'un, les commentaires parfois disent ah ben c'est pas à moi que ça arriverait. Ça, c'est magnifique, d'une croyance de en gros dans ma vie j'ai signé pour qu'il m'arrive que des galères et donc j'ai beau voir que c'est possible, je continue de me raconter que c'est pas à moi que ça va arriver. Donc évidemment si je remets une bûche dans le feu et que je dis en plus sur un compte public que ça va pas m'arriver. A priori, il y a de grandes chances pour que ça ne m'arrive pas. Et donc, c'est cette espèce d'ambivalence-là, de ce oui mais non intérieur, de ce oui j'aimerais y croire, mais bon quand même, de ce oui je me mets sur un site internet pour rencontrer un amoureux, une amoureuse, mais en même temps tous les mêmes, toutes les mêmes. C'est ce oui mais non, et que je peux rejouer dans plein d'endroits dans la vie, évidemment. Donc, c'est très intéressant ça vient vraiment interpeller aussi à cet endroit-là, de qu'est-ce que je veux bien croire au monde? qu'est-ce que je veux bien voir de ce monde-là? Est-ce que, évidemment, passer. C'est pour ça que j'invite vraiment les gens à faire l'expérience de passer une heure devant une chaîne tout info. Je regarde du tout info, quelle que soit la chaîne, hein, il y en a plein, et je regarde comment je me sens à l'intérieur. Je viens de m'avaler une heure de chiffres, de contaminés, de je sais pas quoi, de séismes à l'autre bout de la planète, de trucs sur lesquels je n'ai a priori aucune incidence, hein, ici et maintenant. Donc comment je prends ça, de je subis, comment je me sens à l'intérieur, et je lis une heure, ou le livre Merci à l'inconnu, ou un peu de temps sur le compte Instagram, et je regarde juste comment je me sens. Et c'est vraiment ça, en fait, je suis surprise de tous les messages de gens qui me disent « ça fait une heure que je pleure devant votre compte, devant toutes ces histoires-là, et mon Dieu, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas un truc qui m'avait fait autant de bien. »
Oui, c'est de la joie. On pleure de joie, en fait. On est ravis de voir le cœur de renouer avec ce que l'on est, et de voir le cœur des gens, le cœur du monde. Et c'est vraiment un livre qui fait beaucoup de bien, et surtout... dans l'environnement dans lequel on navigue, en ce moment. Donc, merci Anne pour ce livre. Une fois le compte Instagram réalisé, pourquoi avoir cheminé jusqu'à la rédaction de ce livre ?
Jusqu'au livre. Il y a beaucoup de gens j'en parlais un peu autour de moi, puis qui me disaient « Ah, mais je ne suis pas sur Instagram ». Donc en fait, c'est vrai que quand on est sur Instagram, on a l'impression que le monde est sur Instagram, mais non, en fait, il y a plein de gens, il y a une autre vie en dehors des réseaux sociaux. Et c'est vrai, vraiment dans un premier temps, il y a plein de gens qui me disaient « Ah, mais c'est dommage, mais moi j'aimerais bien lire », etc. Donc j'ai un peu ouvert d'abord sur Facebook pour toucher aussi des gens un peu plus âgés. Alors il y a un peu, les gens sont un peu plus jeunes sur Instagram, un peu plus âgés sur Facebook. Et puis vraiment, des gens de l'âge de mes parents, voire de mes grands-parents, ils disaient « Mais oh là, j'en ai tellement besoin, là, on est tellement tous au fond du trou, enfermés chez nous, où est-ce qu'on peut lire ces histoires-là » Et j'aime l'idée que ça descende dans la matière aussi, dans vraiment un livre-objet qu'on puisse offrir à la bonne collègue qui va pas bien, que ce soit un cadeau aussi, comme ça. L'idée, c'était... Il y a un éditeur, hein, Vuibert, qui est venu me chercher. J'ai trouvé chouette aussi qu'ils viennent en proposant d'en faire un bel objet. Et donc, l'idée, c'était évidemment d'apporter autre chose dans le livre, que ce soit pas évidemment juste un best-of du conte, ça n'est pas du tout l'idée. Donc, dans le livre, il y a un manifeste pour le geste désintéressé qui est vraiment, pour vraiment dire que c'est bien plus qu'un conte Instagram. Instagram, c'est un mouvement et que c'est une forme de profession de foi, en fait, c'est presque militant. Il y a quelques vraiment histoires qui ont déjà été publiées sur le compte, mais qui sont pour moi tellement fortes qu'il fallait qu'elles aient leur place dans le livre. Et puis il y a les trois quarts des histoires qui sont de nouvelles histoires, ainsi que des histoires qui me sont arrivées, qui sont un peu plus longues, qui viennent alterner avec des citations. C'est vraiment comme cette histoire de boîte de chocolat un peu qu'on laisse sur la table du salon, ou livre de chevet, ou dans un sac à main, et qu'on ouvre. Voilà, on lit deux trois histoires et qu'on referme ou qu'on offre.
S'il y avait une histoire, effectivement, qui vous a le plus touchée dans celle que vous partagez avec nous dans ce livre, ce serait laquelle ?
Moi, il y en a une vraiment qui me bouleverse encore. Elle se rapproche un peu de la mienne, mais celle-là, je dirais qu'elle est un peu le cran du dessus. C'est une jeune femme qui est sur un pont d'autoroute et qui menace de se jeter par-dessus. Et en fait, il y a un homme sans domicile fixe qui vit à côté, sous une tente, et qui, en fait, va se jeter sur elle avant qu'elle ne commette l'irréparable. Et en fait, dans l'histoire, elle raconte vraiment qu'il la maintient au sol parce qu'en fait, elle a des pulsions, elle a des élans, elle a envie encore de vraiment, elle a encore son nom à la vie qui sort très fort. Et rien que d'imaginer la scène, ça m'émeut beaucoup parce que je pense vraiment que lui se répare aussi à cet endroit-là. Et je vois bien dans ces histoires-là, évidemment, quel est le miroir et la résonance que ça a les uns pour les autres. Que, évidemment, que quand je vois un enfant, une petite fille qui pleure et que je m'arrête et que je fais demi-tour une fois, deux fois, c'est que vraiment je ne peux pas laisser passer cette petite fille qui pleure à l'extérieur puisqu'il y a une petite fille qui pleure peut-être à l'intérieur. Mmh. Et que je viens en me posant, venant lui offrir quelque chose ou venant juste passer un peu de temps avec elle, je viens soigner mon enfant intérieur à cet endroit-là. Et donc je vois bien le miroir de ce qui se passe à l'extérieur qui me raconte ce que je suis à l'intérieur. Et de ce jeu de pistes que la vie sème pour moi et vient me raconter. Donc je pense vraiment que cet homme-là s'est soigné à cet endroit-là, que l'homme qui, il y a une vingtaine d'années, s'est arrêté à côté de moi, sous couvert de ce monsieur avec ses petites lunettes et son petit par-dessus de 48-50 ans, la jeune femme que j'étais a résonné peut-être avec le jeune homme qu'il a été et à cet endroit-là où ce chagrin-là qu'il avait. Et juste en restant à côté et en veillant, il est déjà venu commencer peut-être à entrer en contact avec ce chagrin-là en lui. Et donc, je crois profondément que c'est comme ça aussi que je peux me réparer, que l'extérieur m'envoie des messages sur ce qui se passe à l'intérieur. Pendant des années et encore aujourd'hui, dès que je vois, moi c'est vraiment les jeunes adolescentes qui craquent dans les transports en commun. Pour moi, les transports en commun sont des formes de sas de décompression, parfois entre le collège, le lycée, la vie professionnelle et la maison, le retour voilà, en famille. Il y a beaucoup de gens qui pleurent dans les transports, vraiment beaucoup de gens. Et de venir à cet endroit-là, au chevet de la, voilà, du chagrin que j'avais, qui, voilà, du sac de larmes qui se libère de plus en plus et venir tendre un paquet de Kleenex, je sais que j'œuvre pour moi et donc pour le monde, à cet endroit-là.
Comme une résonance, comme une forme d'écho, en fait.
Oui, que l'extérieur me dit ce qui se passe à l'intérieur. Si ça me touche, si ça ne me touche pas, c'est aussi, ça dit aussi que je ne me laisse pas encore atteindre à cet endroit-là. Et je n'ai pas encore accès à mon propre chagrin. Et si vraiment je ne peux pas faire autrement que de faire demi-tour, ce sont ces femmes et ces hommes qui s'arrêtent auprès des hommes et des femmes qui sont dans la rue, par exemple. Il y a toujours sur un quai de métro une dame qui a l'air d'aller à son travail et qui s'arrête devant l'homme sans domicile fixe et qui va s'arrêter pour discuter. Et il y a une part d'elle qui a été happée par ça et qui fait qu'elle vient échanger, discuter et donc elle va venir... Voilà, penser PNSER, enfin, mais vraiment penser une forme de voilà, une part de sans domicile fixe à l'intérieur. Moi, je crois vraiment que nous sommes des... Je fais l'expérience, en tout cas, que nous sommes des boules à facettes. Et donc, ça facette un peu de précaire ou de pauvreté, peut-être, ou de l'expérience de solitude, entre en résonance avec cette personne-là et que, en faisant, juste en honorant ce lien-là, déjà, en établissant cette connexion-là, elle vient et elle vient nourrir ce lien-là et établir ce contact comme un touchdown, un peu comme un satellite qui arriverait sur la Lune, et donc entrer en lien et donc ensuite peut-être faire remonter ce chagrin-là à cet endroit-là.
D'accord, eh bien, merci beaucoup Anne pour ce partage, pour ce livre. Je rappelle le titre de votre livre, Merci à un inconnu, soyons tous des héros du quotidien. Paru chez Vibert Éditions. Vous avez un projet d'écriture là qui est sur le feu, vous me le dites, vous partagez avec moi, enfin vous le disiez tout à l'heure, parce que vous avez envie d'en parler un petit peu.
Oui, j'écris beaucoup sur le... En fait, Merci un inconnu est un projet de ce que j'appelle le sweet art, donc il y a vraiment tout un chemin autour de cet art désintéressé, poétique, urbain, que je sème depuis un certain nombre d'années. Donc j'aimerais bien écrire autour de la créativité. Puis j'ai, à un moment donné, je raconterai aussi tout mon chemin, parcours autour du chamanisme et de la spiritualité, qui est un autre pan de ma vie, mais qui est voilà, davantage incarné et qui fait partie, dont Merci à l'inconnu, évidemment, fait partie dans ce côté un peu chaman du bitume, je dirais. Donc, on n'est pas obligé d'avoir des plumes dans les cheveux pour incarner sa lumière. L'idée, c'est aussi d'aller l'incarner dans des grandes villes. On n'est pas obligé d'être dans la forêt avec un tambour. On peut justement remplir sa mission à son endroit.
Eh bien, merci Anne pour ce très beau livre, effectivement, qui est une superbe idée cadeau, ce très beau livre qui fait du bien. C'est un bon livre. Merci beaucoup, Anne.
Merci, Amal.
Eh bien, merci à tous pour votre écoute et votre fidélité. J'espère que ce contenu vous a été utile. Je vous rappelle le titre du livre d'Anne Cazobon, Merci à un inconnu, soyons tous des héros du quotidien, chez Vibert Éditions. Je vous donne rendez-vous sur bloomingnew.fr où vous trouverez la retranscription de cet entretien avec toutes les références. Je vous dis à très vite pour de nouvelles rencontres et découvertes. Et en attendant, je vous souhaite tout le meilleur. À bientôt !